France Inter. Les admirations littéraires
de Félix Moati. Bonjour, bonsoir. Alors je suis ici pour vous lire des extraits d'un roman de Dostoïevski qui s'appelle Les Nuits Blanches, que Dostoïevski lui-même nomme roman sentimental. Sentimental, on va comprendre pourquoi en lisant ces extraits. J'aimerais d'abord lire la citation d'Ivan Tourguenieff par laquelle Dostoïevski ouvre son roman. Tourguenieff, c'était donc un écrivain, dramaturge, russe, contemporain de Dostoïevski, très connu, qui avait une position centrale dans la culture russe de l'époque de Dostoïevski. Et donc Dostoïevski a choisi d'ouvrir ce roman sentimental par cette citation. « Ou bien n'est-il venu au monde que pour rester près de ton cœur, le temps d'un souffle, une seconde ?» Voilà, alors, on va comprendre pourquoi cette citation de Tourguenieff est si judicieuse. Par ailleurs, il me semble que c'est important de dire que Dostoïevski est dans un élan très romantique de sa vie. Il a 27 ans quand il écrit ce roman. Et il est pétri d'idéalisme et de romantisme. Il est pétri encore d'un souffle que certains pourraient qualifier de naïf. Mais c'est une naïveté, comme toujours chez Dostoïevski, qui est du côté du vertige, qui est du côté de la possibilité de l'effondrement. Et c'est ça que je trouve magnifique dans ce roman. Et c'est pour ça qu'il ouvre sans doute ce roman par Tourguenieff. Tourguenieff, d'ailleurs, il me semble qu'il va le moquer 20 ans plus tard dans Les Démons. Je crois, mais je suis pas sûr. Voilà, donc, je vous propose de lire ce premier extrait. Je précise juste quelque chose. C'est que ce roman est donc divisé en 5 parties. Il y a 4 nuits et un matin. L'extrait que je vais vous lire, c'est le début de la première nuit. Donc, c'est le tout début du roman. Allons-y. C'était une nuit de conte, amis lecteurs, une de ces nuits qui ne peuvent guère survenir que dans notre jeunesse. Le ciel était si étoilé, le ciel était si clair que lorsque vous leviez les yeux vers lui, vous ne pouviez, sans même le vouloir, que vous demander. Est-il possible que, sous un ciel pareil, vivent toutes sortes de gens méchants et capricieux? Cela aussi, c'est une question bien jeune, amis lecteurs, mais puisse Dieu vous l'inspirer le plus souvent possible. Parlant de messieurs méchants et capricieux, je ne pouvais pas ne pas penser non plus à ma conduite, exemplaire, durant toute la journée. Dès le matin, je m'étais senti rongé par une sorte de trouble surprenant. Il me sembla soudain que moi, le solitaire, ils m'abandonnaient tous. Oui, tous se détournaient de moi. Ici, certes, chacun est en droit de poser une question. Qui sont-ils donc, ces tous? Parce que voici 8 ans que j'habite à Pétersbourg et que je n'ai su m'y faire presque aucune relation. Mais qu'ai-je à faire des relations? Je connais déjà tout Pétersbourg. Voilà pourquoi j'eus l'impression qu'ils m'abandonnaient tous quand Pétersbourg, comme un seul homme, se leva tout entier pour gagner brusquement ses maisons de campagne. Je fus pris de frayeur à l'idée de rester seul, et j'errai dans la ville, 3 jours durant, dans un trouble profond, sans rien comprendre à ce qui m'arrivait. Allais-je sur le Nevski? Allais-je au jardin? Errais-je le long des quais? Aucun de ces visages que j'avais coutume de retrouver au même endroit, à telle heure, toute l'année. Ils ne me connaissaient pas, bien sûr, mais moi, je les connais. Je les connais de près. J'ai presque fait l'étude de leurs expressions. Je les admire quand ils sont gais. Je me sens triste quand ils s'embrument. Je suis devenu presque un ami du petit vieux que je rencontre, chaque jour que Dieu fait, à une heure précise, sur la fontaine K. Une expression fort grave, méditative. Il grommelle toujours dans sa barbe et agite le bras gauche, tout en tenant dans la main droite une longue canne noueuse à pomme dorée. Même, il m'a remarqué, et je crois que nos âmes se répondent. Si, par exemple, je ne venais pas, à l'heure précise, à cet endroit de la fontaine K, je suis persuadé qu'il se sentirait triste. Voilà pourquoi, de temps en temps, nous nous faisions un signe de la tête, surtout lorsque nous sommes de bonne humeur. Tout à l'heure, cela faisait 2 jours que nous ne nous étions pas vus. Nous nous retrouvions au 3e. Nous avions déjà même voulu saisir nos chapeaux, mais nous nous sommes réveillés à temps, avons baissé le bras et sommes passés l'un près de l'autre, avec compréhension. C'est donc l'ouverture des Nuits Blanches de Dostoïevski. Ce chapitre s'appelle « Nuit première », donc c'est la première nuit de ces 4 à venir. Et moi, ce qui me saisit, c'est d'emblée comment le narrateur, dont on n'a pas le nom, dont on n'a pas le prénom et dont on n'aura jamais le nom pour toute la suite du récit, se qualifie de solitaire et de rêveur, et à quel point il se situe du côté de la naïveté. C'est-à-dire que quand il dit cette phrase absolument magnifique « Est-il possible que sous un ciel pareil vivent toutes sortes de gens méchants et capricieux ?» Je trouve cette phrase d'une naïveté attristée, et d'une beauté vraiment si juvénile, en fait. C'est-à-dire que, en effet, voilà ce jeune homme dont on peut imaginer qu'il est peut-être l'alter ego de Dostoïevski, se poser ce genre de questions si naïves. Moi, je trouve ça à tomber à la renverse. Et il se qualifie d'emblée de solitaire. Et en effet, il a l'impression, c'est ce qu'il dit, que la ville l'abandonne. Que les gens, on imagine plutôt la bourgeoisie de Saint-Pétersbourg, que les gens vont dans leur datcha pour le week-end, les maisons de campagne russes, et donc vont dépeupler la ville. Et on imagine aisément notre narrateur, dont on ne connaît pas le nom, errer de manière solitaire dans cette ville, dans une Pétersbourg désertée. Voilà, moi je trouve ça splendide, ça pose le cadre de ce roman. Et maintenant, je vous propose qu'on continue. Là, je vous lis un deuxième extrait des Nuits Blanches de Dostoïevski, qui est toujours dans ce premier chapitre, dans la nuit première. Je rappelle qu'il y en a quatre, on est toujours dans la nuit première. On a eu la présentation du narrateur, par lui-même. Et là, il nous explique quelle inquiétude l'avait rongé le matin de cette première nuit. Vous comprenez ainsi, lecteur, de quelle façon je connais toute la ville de Pétersbourg. J'ai déjà dit que l'inquiétude m'avait rongé durant 3 jours entiers, avant que je parvienne à en trouver la cause. Je sentais un malaise. Dans la rue, celui-là n'est pas là, celui-ci non plus, où est passé tel autre? Et même chez moi, je me sentais tout chose. Pendant 2 jours, j'ai tenté de comprendre. Que me manquait-il donc dans mon recoin? Pourquoi avais-je tant de mal à y rester? Et, avec stupéfaction, j'examinais les murs verts couverts de suie, mon plafond, orné de toiles d'araignées que Matryona faisait croître avec un grand succès. Je passais tous mes meubles en revue, j'examinais chaque chaise, me demandant si le malheur ne venait pas de là, car si ne serait-ce qu'une chaise est déplacée chez moi, je ne sais plus ce que je deviens. Je regardais par la fenêtre, toujours en vain, aucun soulagement. J'eus même l'idée d'appeler Matryona pour lui faire des reproches au sujet des toiles d'araignées, et en général de son manque de soin. Mais elle se contenta de me regarder d'un air surpris et s'en alla, sans me répondre un mot, si bien que la toile d'araignée trône toujours tranquillement à sa place. Ce n'est donc que ce matin que j'ai fini par comprendre ce qui se passait. Mais oui, ils m'abandonnent tous, ils filent au vert. Pardonnez-moi cette expression triviale, j'ai d'autres soucis que le beau style. C'est que tout Pétersbourg était soit déjà parti, soit en train de partir à la campagne. C'est que chacun de ces braves messieurs, à l'allure grave, arrêtant un cocher devant mes yeux, se transformait immédiatement en brave père de famille, lequel, ses obligations de service accomplies, se rendait, sans plus de cérémonie, dans les tréfonds de sa famille, dans sa datcha. C'est que chaque passant avait dorénavant une allure spéciale, et qu'il s'en fallait de peu que cette allure ne dît à chaque personne rencontrée « Nous ne faisons que passer, messieurs, nous partons dans 2 heures pour la datcha ». Une fenêtre sur laquelle avait tambouriné de petits doigts fins et blancs comme du sucre s'ouvrait-elle? La tête blonde d'une jolie jeune fille se montrait-elle, appelant un marchand qui transportait des pots de fleurs? Il me semblait tout de suite que ces fleurs étaient achetées, non pour se réjouir du printemps et des fleurs dans la touffeur d'un appartement de la ville, mais parce que les gens allaient bientôt partir et emporter ces fleurs dans leurs bagages. Bien plus, j'avais déjà fait de tels progrès dans ce genre nouveau et personnel de découverte que je pouvais dire, sans risque de me tromper, rien qu'à l'aspect, qui s'installait dans quelle datcha. Les habitants des îles Kameni ou Aptekarski ou ceux de la route de Peterhof se distinguaient par l'élégance étudiée de leur manière, leurs costumes d'été à la dernière mode et les splendides équipages qu'ils avaient pris pour se rendre en ville. Les habitants de Pargolovo et ceux d'un peu plus loin en imposaient au premier coup d'œil, par leur maintien et par leur dignité. Le visiteur de l'île Krestovski se distinguait par son air invariablement gai. Avais-je la chance de rencontrer une longue procession de tombereaux, leurs cochers avançant, tout doux, rênes en main à côté de leur équipage, chargés de véritables montagnes de toutes sortes de meubles, tables, chaises, divans turcs et non-turcs et autres fatras domestiques que venaient bien souvent couronner, en supplément gratuit, assise sur le plus haut sommet du tombereau, une maigre cuisinière veillant sur le bien de ses maîtres comme sur la prunelle de ses propres yeux. Regardais-je les barques lourdement chargées de tout un fouillis familial glisser le long de la Neva ou de la Fontanka vers la rivière Noire ou vers les îles? Les barques et les tombereaux se multipliaient par 10, par 100 devant mes yeux. Il me semblait que tout s'était levé, tout s'était mis en branle, que tout se transportait par caravane dans les datchas. Il me semblait que Pétersbourg menaçait de se transformer tout entier en désert, si bien que je finis par me sentir humilié, offensé, malheureux. Moi, je n'avais nulle part, vraiment, où partir à la campagne, aucune raison d'y aller. J'étais prêt à partir avec chaque tombereau, à suivre chaque monsieur d'apparence grave qui louait un cocher. Mais pas un seul, non. Pas un seul ne m'invitait. C'était comme si on m'avait oublié, comme si vraiment, j'étais pour eux un étranger. Alors moi, cet extrait, je le trouve saisissant. Déjà, il y a une phrase qui condense un peu l'éthique d'écrivain de Dostoïevski, à savoir, quand il dit « je n'ai que faire du beau style ». Markowitz, qui est son traducteur voilà, chez Actes Sud, traduction qui fait autorité aujourd'hui, avait dit que Dostoïevski, en fait, c'était un style parfois très oral. Et là, je rends hommage aussi à ma professeure de lettres en hippocane, qui m'avait dit que Dostoïevski, quand il écrivait, il était chacun des personnages, parfois au détriment du beau style. C'est vraiment son éthique d'écrivain. Ce qu'on voit dans ce passage aussi, et c'est ce que je trouve très beau, c'est ce sentiment d'étrangeté face au monde, comme s'il regardait le monde à travers une vitre et où les autres ne le voyaient pas. Il regarde, mais il n'est pas vu. Il est l'observateur jamais observé. Et il a ce sentiment d'étrangeté au monde qui peut faire penser à cette magnifique chanson des Doors, People are Strange. Voilà, moi, ça m'y fait penser, en tout cas, ce sentiment d'étrangeté au monde que Camus va reprendre, puisque Camus était un admirateur de Dostoïevski. Et Camus va reprendre ça, évidemment, dans L'étranger, mais dans le reste de son œuvre, ce sentiment presque d'absurdité, que les gens l'abandonnent. Un sentiment de solitude, un sentiment enfantin aussi, un sentiment d'abandon. Et un sentiment d'étrangeté au monde. Il est pour eux comme si vraiment j'étais pour eux un étranger. Voilà cette dernière phrase. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're
Admiration littéraire
de Félix Moati
sur France Inter.
Aujourd'hui, mes admirations littéraires se portent sur Les Nuits Blanches de Dostoïevski, roman qu'il a écrit quand il avait 27 ans. Je vais vous lire un extrait de ce premier chapitre intitulé « Nuit première ». Je vous rappelle qu'il y a 4 nuits et un matin, donc là on est dans la nuit première, et il nous explique, le narrateur, qui n'a pas de nom, je le rappelle, il nous explique pourquoi, finalement, dans sa solitude et dans son errance, eh bien, il va à la rencontre d'un grand bonheur. Et néanmoins, ma nuit fut plus belle que le jour. Voici pourquoi. Je rentrais en ville très tard. 10 heures avaient déjà sonné lorsque j'approchais de chez moi. Je devais longer le quai d'un canal où, à cette heure-ci, on ne croise plus âmes qui vivent. Il est vrai que j'habite la partie la plus éloignée de la ville. Je marchais et chantais, car quand je suis heureux, je marmonne toujours je ne sais quoi en moi-même, comme tout homme heureux qui n'a ni ami ni relation et qui, en cet instant de joie, ne peut la partager avec personne. Il m'arriva soudain la plus inattendue des aventures. un petit peu à l'écart, penchée sur la rambarde du canal, se tenait une femme. Elle s'était accoudée à la grille et, manifestement, elle regardait l'eau trouble du canal avec une attention profonde. Elle était coiffée d'un joli petit chapeau jaune, vêtue d'une coquette mantille noire. Une jeune fille, une brune à coup sûr, me dis-je. Elle ne sembla pas entendre mes pas. Elle resta même immobile quand je passais derrière elle, retenant mon souffle et le cœur battant la chamade. « Bizarre, » me dis-je, « sans doute doit-elle penser très fort à quelque chose. » Et je me figeais soudain comme une statue. J'avais cru entendre des sanglots contenus. Non, je ne m'étais pas trompé. La jeune fille pleurait, elle sanglotait encore, et encore, de minute en minute. Mon Dieu, j'en eus le cœur serré. Je suis timide avec les femmes, bien sûr, mais là, c'était une telle minute. Je revins en arrière, fis un pas vers elle, et à coup sûr, j'aurais prononcé « Madame !» si je n'avais su que cette exclamation avait été maintes fois prononcée dans tous les romans russes du grand monde. C'est la seule chose qui m'arrêta. Mais, le temps que je trouve un autre mot, la jeune fille était revenue à elle, avait vu ce qui se passait, s'était reprise, avait baissé la tête et s'était faufilée près de moi le long du quai. Je la suivis immédiatement, mais elle s'en rendit compte, quitta le quai, traversa la rue et suivit le trottoir. Je n'osais pas traverser. Mon cœur battait comme celui d'un oiseau qu'on vient de prendre. Cet extrait... c'est l'élément déclencheur du roman, c'est-à-dire que on arrive à un moment absolument décisif, c'est-à-dire que au loin le narrateur voit Nastenka. Nastenka qui va devenir la femme dont le narrateur va tomber éperdument amoureux et qui va être à l'origine de ce déferlement d'amour en fait de la part du narrateur, d'un amour dont on verra qu'il va être absolument blessé, contrarié. Nastenka, elle est présentée immédiatement comme brune, c'est ce qu'il se dit, le narrateur, même si on reste vague sur les descriptions physiques, et elle sanglote. Que se passe-t-il? Quel est ce chagrin qui l'étreint? On reste très mystérieux pour l'instant, le narrateur ne nous donne aucune information, on sait juste que Nastenka est en train de pleurer. Voilà. Et un autre élément important, c'est qu'il n'ose pas aller lui parler. Il a peur d'être malaisant. Donc il se décrit comme solitaire dans le premier extrait, mais désormais aussi comme timide avec les femmes, timide donc avec Nastenka, qu'il n'ose pas aller voir. Et il a raison, c'est tout à fait effrayant pour une femme d'être abordée dans la rue la nuit. Alors, là, l'extrait que je vais vous lire, il est encore dans la nuit première. Nastenka et le narrateur se sont rencontrés au profit d'un acte de bravoure, c'est-à-dire que le narrateur est allé... empêcher Nastenka de se faire importuner par un autre homme. Ils se parlent depuis quelques minutes et on va voir là quelque chose qui est très caractéristique de ce roman de Dostoïevski. C'est les élans lyriques du narrateur que je trouve absolument magnifique. Et après s'être qualifié de solitaire et de timide, désormais il se qualifie de rêveur. Et on va voir que la notion de rêve traverse tout le roman. Et voilà comment Nastenka se qualifie d'ailleurs elle-même de rêveuse. Écoutez-moi, écoutez-moi, criai-je pour l'interrompre. Pardonnez-moi si je parle encore de travers. Mais voilà, je ne peux pas ne pas venir demain. Je suis un rêveur. J'ai si peu de vie réelle que des minutes comme celle-là, celles que je suis en train de vivre, elles me sont si rares que je ne peux pas ne pas les répéter dans mes rêveries. Je rêverai de vous toute la nuit, toute la semaine, toute l'année. Je viendrai ici demain, coûte que coûte, oui, ici, à cet endroit précis, à la même heure. Et je serai heureux en me souvenant de ce qui s'est passé. Cet endroit, à lui seul, m'est déjà cher. J'ai déjà comme cela deux ou trois autres lieux à Pétersbourg. Une fois, je me suis même mis à pleurer à cause d'un souvenir. Comme vous. Qui sait, peut-être, vous aussi, il y a 10 minutes, vous pleuriez à cause d'un souvenir. Mais pardonnez-moi, je me suis encore oublié. Peut-être, un jour... « Avez-vous été particulièrement heureuse, ici ?»« Bon, dit la jeune fille, je crois que je viendrai demain, moi aussi, à 10 heures. Je vois que je ne peux déjà plus vous l'interdire. Le fait est qu'il faut que je sois ici. Ne pensez pas que je vous fixe un rendez-vous. Je vous préviens que je dois être ici, pour moi-même. Mais voilà. Bon, cela, je vous le dis tout net. Ce n'est pas grave si, vous aussi, vous venez. D'abord, il peut y avoir des ennuis, comme tout à l'heure. Mais passons sur cela. Bref, j'aurais simplement envie de vous voir. » Pour vous dire deux mots. Seulement, voyez-vous, ne me condamnerez-vous pas, à présent? Ne croyez pas que je fixe des rendez-vous si facilement. Je vous en aurais fixé un, si... mais que cela reste mon secret. Seulement, à l'avance, une condition. Une condition. Parlez, dites-le. Dites tout à l'avance. J'accepte tout. Je suis prêt à tout, m'écriai-je exalté. Je réponds de moi, je serai obéissant, respectueux. Vous me connaissez. C'est bien parce que je vous connais que je vous invite demain, dit la jeune fille en riant. Je vous connais parfaitement. Mais attention, il y a une condition pour que vous reveniez. D'abord, seulement, je vous en prie, faites ce que je vous demande. Vous voyez, je suis franche. Ne tombez pas amoureux de moi. C'est impossible, je vous assure. Pour l'amitié, je suis toute prête. Voici ma main. Mais tomber amoureux, interdit. C'est un ordre. Je vous le jure, m'écriai-je, saisissant sa jolie petite main. Assez, assez. Ne jurez pas. Je sais déjà que vous êtes prêt à prendre feu comme de la poudre. Ne me condamnez pas si je vous dis cela. Si vous saviez, moi non plus je n'ai personne à qui parler, à qui demander conseil. Bien sûr, ce n'est pas dans la rue qu'on trouve des conseillers, mais vous êtes une exception. Je vous connais comme si nous étions amis depuis 20 ans. N'est-ce pas que vous ne me trahirez pas? Vous verrez. Seulement, je ne sais pas si je pourrai survivre 24 heures. Dormez le plus possible. Bonne nuit. Et n'oubliez pas, j'ai mis ma confiance en vous. Vous vous êtes si bien exclamé tout à l'heure. Faut-il vraiment rendre compte de chaque sentiment, même d'une compassion fraternelle? Savez-vous, c'est si bien dit. L'idée m'est venue tout de suite de me confier à vous. Je vous en prie, mais pourquoi? Comment? À demain. Que cela reste pour l'instant un mystère. Tant mieux pour vous. Même de loin, cela pourra ressembler à un roman. Peut-être vous le dirai-je dès demain, peut-être pas. Il faudra encore que je vous parle avant, que nous fassions mieux connaissance. Oh oui, dès demain, je vous raconterai tout sur moi. Mais qu'est-ce donc? J'ai l'impression de vivre un miracle. Où suis-je, mon Dieu? Mais dites-moi, est-ce que vraiment, en ce moment, vous êtes mécontente de ne pas vous être fâchée comme l'aurait fait une autre, de ne pas m'avoir chassée depuis le début? 2 minutes, et vous m'avez rendu heureux pour toute la vie. Oui, heureux. Comment savoir, peut-être, vous m'avez réconcilié avec moi-même, vous avez résolu mes doutes. Peut-être suis-je en train de vivre une de ces minutes. Enfin, je vous raconterai tout demain. Vous saurez tout, oui, tout. Fort bien, j'accepte. C'est vous qui commencerez. Entendu. Au revoir. Au revoir. Nous nous quittâmes. Je marchais toute la nuit, je ne pouvais me décider à rentrer chez moi. J'étais tellement heureux. À demain. Alors, voilà, dans cet extrait, on voit qu'il y a un dialogue entre Nastenka et le narrateur, où elle lui impose une condition qui ne sera évidemment pas respectée par le narrateur, à savoir de ne pas tomber amoureux d'elle, ce qui est une condition, je trouve, assez cruelle. Voilà ce narrateur si seul, si timide, qui brave sa timidité, qui parle avec Nastenka. Nastenka, elle aussi, rêveuse et solitaire, qui parle avec lui, et elle lui impose cette condition. Et on va comprendre pourquoi elle lui impose cette condition. Et par là même, on va comprendre les causes de son chagrin, pourquoi elle pleurait au bord de l'eau.
Je veux être par toi un jour apprivoisé, enrôlé dans tes bras l'été, me faire couronner roi et voler un baiser de toi jusqu'à mes ailes, qui comme un désir d'or alanguit mes pensées, méandre de ton corps au gisant des marées. Quand le soleil se lève sur ta peau dessinée, le temps, serons-nous les fruits sauvages que nos arbres ont portés? Saurons-nous tourner les pages d'une aubaine humanité? fertile sous ta nuit qui descend, les vagabonds des îles au vent. Ivre et nu sur la plage, au ventre des embruns, on repart en voyage demain. Serons-nous les fruits sauvages que nos arbres ont portés? Saurons-nous tourner les pages d'une belle humanité? Serons-nous les fruits sauvages que nos arbres ont portés? Saurons-nous tourner les pages d'une belle humanité? Serons-nous les fruits sauvages que nos arbres ont portés? Saurons-nous tourner les pages d'une belle humanité?
Les admirations littéraires
de Félix Moati
sur France Inter.
Alors cet extrait, il est vraiment magnifique. C'est un extrait qui est dans la nuit deuxième des Nuits Blanches de Dostoïevski. Donc je rappelle que Nastenka et le narrateur se sont rencontrés et qu'ils se sont donné rendez-vous. Voilà, on se revoit demain à 10h. Voilà comment s'est conclu le premier chapitre. Et donc là, le narrateur en rajoute sur le fait qu'il soit un rêveur. Je trouve que c'est fondamental de lire cet extrait parce que c'est vraiment la sève même de ce roman. Savez-vous ce que c'est qu'un rêveur ? Un rêveur ? Mais bien sûr que je le sais. Je suis une rêveuse moi-même. Parfois, quand je reste auprès de ma grand-mère, Dieu sait à quoi je pense. Parfois, vous savez, on se met à rêver, on se prend à réfléchir. Eh bien, je me marie avec le prince de Chine. Mais c'est vrai que c'est bon, parfois, de rêver. Non, remarquez, qui sait ? Surtout si, même sans cela, on a assez de choses à quoi penser, ajoute à la jeune fille, cette fois sur un ton plutôt sérieux. Magnifique ! S'il vous est déjà arrivé de vous marier avec l'empereur de Chine, je crois que vous me comprendrez parfaitement. Eh bien, écoutez-moi. Mais permettez, je ne sais même pas comment vous appeler. Enfin, vous y avez mis le temps à vous souvenir. Ah mon Dieu, je n'y ai même pas pensé. Je me sentais si bien. Je m'appelle Nastenka. Nastenka, c'est tout ? C'est tout. Vous trouvez que c'est trop peu ? Vous êtes insatiable. Alors là, je vais sauter tout ça et je vais dire juste la fin. Et il va lui dire en quoi c'est un rêveur. Le rêveur, s'il vous en faut une définition exacte, ce n'est pas un être humain. Il est plutôt un être du genre neutre. Il loge de préférence dans les coins les plus inaccessibles, comme s'il cherchait à s'y cacher même de la lumière du jour. Et, une fois rentré chez lui, il s'incruste dans son coin, comme un Bernard l'ermite, ou bien, à tout le moins, ressemble très fort de ce point de vue à cet animal passionnant qui est à la fois un animal et une maison, et qu'on appelle une tortue. Qu'en pensez-vous ? Pourquoi aime-t-il tant ces quatre murs, toujours peints en verre, couverts de suies et enfumés comme il n'est pas permis ? Pourquoi cet homme comique, quand l'une de ses rares connaissances vient lui rendre visite, car il finit toujours par faire le vide autour de lui, pourquoi cet homme comique l'accueille-t-il avec tant de confusion ? Un visage si troublé, si changé qu'on pourrait croire qu'il vient juste de commettre un crime entre ces quatre murs, comme s'il était en train de fabriquer de la fausse monnaie ou bien de petits vers qu'il enverrait à une revue, avec une lettre anonyme faisant savoir que le vrai poète est décédé et que son ami estime de son devoir sacré de publier ses œuvres. Alors voilà la définition du rêveur selon Dostoïevski. Qu'est-ce qu'il nous en dit ? Il nous en dit déjà que c'est un être comique. Alors j'aime bien la définition du comique selon Dostoïevski, alors qu'il décrit plutôt quelqu'un dans une situation pathétique, quelqu'un qui est toujours confus, quelqu'un qui se dérobe, qui esquive. Le comique tutoie le pathétique, et puis c'est un rêveur, c'est-à-dire qu'il le qualifie de pas vraiment un être humain, plutôt un être du genre neutre, comme il dit, qui loge dans les coins les plus inaccessibles, comme s'il cherchait à s'y cacher même de la lumière du jour. Alors ça, je trouve ça super intéressant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui craint la vie diurne. On imagine qu'il se met en mouvement la nuit, qu'il esquive le regard des autres. Voilà, ça c'est un rêveur selon Dostoïevski. Alors là, on lit les Nuits blanches de Dostoïevski, qu'il qualifie lui-même de roman sentimental. Et donc, je vous ai lu beaucoup de passages qui étaient la voix du narrateur. Maintenant, je vais vous lire la voix de Nastenka, donc la jeune fille qu'il a rencontrée. Pour resituer un peu le contexte, hein, on est dans la dernière nuit, la nuit quatrième. Et Nastenka, alors je ne veux pas trop en dévoiler parce que j'espère que vous allez lire ce livre, mais Nastenka, on a compris pourquoi elle lui a demandé de ne pas tomber amoureux d'elle. C'est parce qu'elle est épinglée à un autre amour. Et je dis épinglée sciemment, vous verrez pourquoi en lisant le roman. Et là, elle parle de cet autre amour. Voilà le constat qu'elle en fait dans cet extrait que je vais vous lire. Peut-être tout mon amour n'était-il qu'un mensonge des sens, de l'imagination. Peut-être n'a-t-il commencé que comme un enfantillage, par des sottises, parce que j'étais sous la surveillance de ma grand-mère. Peut-être dois-je en aimer un autre, oui, un autre homme, un homme différent, qui me plaindrait et... Mais laissons cela, laissons, fit Nastenka, s'interrompant, le souffle coupé par l'émotion. Je voulais vous dire que, si bien que je l'aime, non, que je l'ai aimé, si, malgré ce que vous direz encore, si vous sentez que votre amour est assez grand pour parvenir enfin à chasser de mon cœur celui que j'avais, si vous voulez avoir pitié de moi, si vous refusez de me laisser seul à mon destin, sans consolation, sans espoir, si vous voulez m'aimer toujours, comme vous m'aimez maintenant, alors je le jure, ma reconnaissance et mon amour sera finalement digne de votre amour. Me prendrez-vous la main, maintenant ? Alors voilà, je trouve cet extrait intéressant parce que, au début du roman, Nastenka demande au narrateur de ne surtout pas tomber amoureux d'elle, et là, elle lui demande l'inverse. Elle lui propose de lui prendre la main. Elle lui dit, écoutez, voilà, j'oublie cet amour passé, cet autre homme, j'oublie cet amour contrarié, et maintenant je suis disposée à vous aimer, vous, parce que je suis sensible à l'amour que vous me portez. Donc c'est une proposition de Nastenka. Voilà.
Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, mon présent passé. C'est comme si j'avais au cœur un siècle de bonheur. Comme tout appris par cœur, c'est fou, c'est beau et ça fait peur. Retiens tout et même ce qui ne compte pas. Tous les mots qui me viennent ont été dits déjà. J'aimerais qu'une fois cesse cet air de déjà vu. Même mon premier amour, je l'ai déjà connu. Rien d'inattendu. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, ma réalité. C'est comme si j'avais au corps les vivants et les morts, comme un dedans dehors. C'est fou, c'est beau et un peu trop fort. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment oublier? Rien ne se perd dans ma mémoire, rien n'est effacé. C'est comme un mot qui se danse, ton chiffre porte bonheur, comme un numéro en absence, le dernier code avant l'ascenseur.
Les admirations littéraires
de Félix Moati
sur France Inter.
Alors si, chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez envie de lire ce roman, n'écoutez pas ce passage, puisque c'est la toute fin. C'est les dernières lignes des Nuits blanches de Dostoïevski, mais moi je le trouve d'une beauté splendide. Alors, vous verrez en lisant le roman, qu'évidemment, Nastenka fait cette proposition qu'ils s'aiment, qu'ils soient peut-être un couple, qu'ils vivent cet amour à deux. Mais son amour contrarié est revenu dans l'équation. Et donc Nastenka a abandonné notre narrateur. Et malgré tout, le narrateur finit par ces quelques phrases que je vais vous lire maintenant. Que ton ciel reste clair. Que ton joli sourire reste toujours aussi clair, aussi lumineux. Sois donc béni pour cette minute de bonheur et de béatitude que tu offris à un autre cœur solitaire et reconnaissant. Mon Dieu, une pleine minute de béatitude, n'est-ce pas assez pour toute une vie d'homme ? Cette émission a été préparée par Perrine Malinge, la prise de son a été effectuée par Sybille Clamins, c'est Raphaël Rousseau qui l'a mixé. Stéphane Ronxin l'a réalisé. La semaine prochaine, je vous lirai l'Ecclésiaste. Thank you.